Merci Paul. Bon bah bonjour à cette petite équipe. J'espère que ça va bien, que c'est bien passé hier soir pour vous. Peut-être on se présente juste pour une fois qu'on apparaît les deux ensemble. Donc moi Sven, Johan, ma femme, Raoul qui nous accompagne pour un petit bout de matin. Et puis nos deux filles, elles sont pas là, elles sont chez les beaux-parents. Il y a Eline et Nina, mais voilà, vous n'aurez pas l'occasion de les voir. Voilà pour nous. On aimerait vous parler aujourd'hui du thème des limites, qui est un sujet qui soulève beaucoup d'émotions, d'opinions aussi, hein, parce que ça vient aussi nous chercher dans notre apprentissage des limites. C'est un sujet qui a tendance à intéresser particulièrement les parents quand même. Puis dans la perspective de ce cours, il faut savoir que si tout le monde a pu vivre et peut appliquer les valeurs qui sont celles qui ont été enseignées dans les quatre cours précédents, la notion des limites, elle sera aussi plus facile à être vécue. C'est pas, voilà, c'est pas quelque chose d'impossible à vivre.
Donc poser des limites, on voit que c'est quelque chose à quoi on est confronté à partir du moment qu'on a, enfin même avant, mais avec les enfants c'est assez fort. On voit vite qu'il y a besoin de poser des limites. Mais je pense qu'on a aussi, on peut aussi l'apprendre pour nous-mêmes déjà, à se poser des limites à soi et puis à comment enseigner nos enfants à le faire. Nous, on s'est vite rendu compte que pour qu'on ait une vie de famille qui soit plus ou moins agréable, on avait à poser des limites, sinon c'était un peu le dawa. Et je pense qu'en tant que parents, on a un fort impact d'exemple pour nos enfants. Si on arrive à poser des limites pour nous, ils y arriveront d'autant plus pour eux-mêmes. Dans le livre, les Mail Wish, donc le livre de l'art de vivre la famille, il raconte une anecdote d'un papa qui va au supermarché avec son enfant de 2 ans, puis il le met dans le caddie. Et à un moment donné, l'enfant fait une crise, il hurle, il tape des pieds, il n'est pas content. Et les gens dans le magasin entendent ce monsieur dire: Sam, ça va aller, détends-toi, Sam, tranquille, c'est bon, ça va aller. Et puis une dame qui a assisté à ça, elle arrive à la caisse vers lui et puis elle lui dit: mais franchement, je suis vachement impressionnée comment vous avez géré votre petite Sam. Et puis le monsieur lui répond: bah, en fait, Sam, c'est moi. Juste voilà, pour illustrer le fait de comment déjà nous mettre des limites pour être bien.
Voilà, donc il nous arrive à tous d'être à bout, d'avoir la coupe qui est pleine avec nos enfants. Donc c'est quelque chose qui arrive de toute façon, qu'on ne peut pas éviter. Et puis il faut savoir que d'avoir établi des limites au préalable, ça permet de remettre les pendules à l'heure et puis d'être posé sur un cadre confortable et puis viable. Et c'est aussi le moyen d'acquérir le sens des responsabilités personnelles pour l'enfant qui doit vraiment apprendre à cheminer lui-même face aux limites, face à ce qui peut être contraignant aussi. Donc, en plus de transmettre à nos enfants un attachement émotionnel fort, la chose la plus importante, c'est qu'on puisse leur donner en tant que parents le sens des responsabilités, c'est-à-dire les aider à comprendre les choses pour lesquelles ils sont responsables et celles pour lesquelles ils ne sont pas responsables. Donc vraiment mettre une délimitation. Apprendre à dire non, c'est aussi accepter un non. C'est la responsabilité. En gros, c'est un don merveilleux. Donc, nous, nos filles, par exemple, il y avait toujours l'histoire de prendre les doudous avec nous en voiture quand on allait quelque part. Et puis, c'est quelque chose avec laquelle on s'arrachait les cheveux avec Johan parce qu'il fallait toujours le chercher avant. Voilà, c'était toujours la course. Et au final, on s'est dit, mais là, pour nous, ça joue plus. On est dans un stress qui dépasse nos propres limites. Donc, il fallait mettre en place un truc. Donc, on a arrêté la limite à: les filles, si vous voulez prendre votre doudou, vous le prenez vous et vous en êtes responsable. Si vous l'oubliez, quand on part et puis on ne va pas faire demi-tour. Et on a dû éprouver quelquefois avec elles le fait qu'elles ne l'aient pas pris, ma foi, puis qu'elles ont dû trouver un autre moyen de se rassurer dans la voiture et puis d'oublier ça au final, quoi. Et après, bah, elles sont tout à fait aptes. Hein, les jours où elles disent: ah bah tiens, aujourd'hui j'ai envie de prendre mon doudou, puis elles courent le chercher, puis elles le prennent. Puis d'autres fois, elles n'en ont juste pas besoin et puis elles ne le prennent pas. Donc c'est aussi une manière pour elles d'être autonomes avec leur gestion de leurs affaires. Les doudous, c'est quelque chose de très important à un certain âge, donc voilà.
Puis des fois, elle l'oublie. Et puis, souvent dans la voiture, il y a « Maman, t'as pris mon doudou ?» Et puis moi, je leur réponds souvent « Ben, est-ce que tu l'as pris? Tu sais où il est ?» Et puis souvent, ça suffit à juste désamorcer le truc, puis elles se disent « Ah ben ouais, en fait, ben non, je ne l'ai pas pris. » Donc ça remet la responsabilité aussi sur l'enfant. Les enfants ne sont jamais trop petits pour apprendre les limites. Nous, on a vraiment, même avant qu'il y ait la parole, on a réalisé qu'ils comprenaient très bien beaucoup, beaucoup de choses, plus que ce qu'on s'imagine des fois. Et souvent, le fait de poser une limite, on l'associe à quelque chose d'assez lourd, de contraignant, un truc un peu pénible, le côté un peu lourd de la médaille. Et moi, je crois que dans la discipline, il y a vraiment cette notion de faire des disciples, de guider, de former, d'enseigner, pour amener nos enfants à la maturité, et puis les amener aussi à prendre leurs responsabilités. Et moi, un des exemples à quoi j'ai envie de me rattacher, c'est comment Dieu fait aussi pour nous rendre ses disciples. Dans un livre que j'ai lu dernièrement et qui m'inspire beaucoup, de Danny Silk, qui s'appelle « Aimer nos enfants intentionnellement ».
Lisez-le, achetez.
Il parle du fait que Dieu, dans son projet parfait, quand il a créé le jardin d'Éden, donc c'était le paradis, c'était ce qu'il avait comme plan avant qu'il y ait le péché. Dans ce jardin, il a lui-même posé une limite. Il a lui-même posé l'arbre de la connaissance et du bien au milieu du jardin. Il ne l'a pas caché derrière un buisson pour que personne ne le voie. S'il a fait ça, c'est aussi pour qu'on ait le choix. Qu'on ait le choix soit de l'aimer, soit de le rejeter. Et ce choix, ça permet de nous rendre libres. La liberté nous permet de pouvoir vraiment vivre un amour inconditionnel, de pouvoir vivre cet amour inconditionnel que Dieu nous donne. Et je pense que, en tout cas pour moi, c'est une belle métaphore de ce qu'on peut vivre avec nos enfants, pour pouvoir justement vivre cet amour inconditionnel avec nos enfants. Ils ont besoin d'être libres et donc de pouvoir aussi être confrontés à des choix.
Donc, je ne vais pas répéter le fait que faire la discipline, c'est aussi enseigner, guider, façonner. On vient de le dire, mais on peut aussi parler de la limite dans le sens où quand il y a un problème et puis que ce problème n'a pas de propriétaire entre nous et nos enfants, c'est difficile de régler. C'est là où ça commence, la vraie discipline. C'est là où nous aussi, on doit apprendre à se positionner et puis à ne pas porter ce que l'enfant est censé porter. Il y a vraiment une histoire de territoire à définir et puis de cadre à se mettre à soi-même aussi. Moi, j'expérimente ça tout le temps. Je dois me rappeler que j'ai mon cadre à moi à respecter. Et puis, dans la discipline, l'enfant il est impliqué dans un processus décisionnel pour établir comment réparer les dégâts. Si par exemple on prend la punition, qui est juste un petit élément, l'adulte il prend toutes les décisions, il a le contrôle. Et puis c'est le contrôle qui est l'essence de la punition. Et puis ce qui se cache là derrière, c'est plutôt la peur. La différence clé entre la discipline et la punition, c'est la colère. La discipline, elle tient beaucoup au fait que l'enfant est considéré comme un disciple, un apprenti, on peut lui faire confiance aussi. La discipline, ça engendre une certaine vertu chez celui qui a enseigné. Donc ça coule de la vie du professeur jusque dans la vie de l'apprenti. Il y a vraiment un truc de transmission aussi, et pas juste de subir.
Moi, j'ai envie de me rappeler aussi que chez les enfants, il y a une incroyable envie d'apprendre et puis qu'ils ont des ressources assez incroyables pour apprendre. Par exemple, justement, l'exemple de la marche, là, c'est un dessin d'Alain Auderset qui dit « Si les adultes devaient apprendre à marcher, ouais, je suis tombée déjà 3 fois, alors je me suis fait une raison, marcher, c'est pas pour moi. » Et puis, je trouve que chez les enfants, c'est beau de voir aussi... Par exemple, quand ils apprennent à marcher, de les voir se relever, réessayer, jusqu'à ce qu'ils y arrivent.
Dans cette session, on va considérer 4 points clés que nos enfants ont besoin dans ce domaine du cadre et de la discipline. Le premier, c'est l'instruction. Le deuxième, l'encouragement. La correction, ou nous, on aime plutôt l'appeler les conséquences naturelles. Et puis le quatrième, c'est mettre les choses en ordre. Donc la réparation, entre guillemets. La première des clés, c'est l'instruction. Donc la discipline, elle commence par le fait qu'on doit informer nos enfants, les instruire sur quelque chose, sur une donne, sur laquelle ils puissent se poser et l'entendre. C'est une sorte finalement de contrat. On pose quelque chose, l'enfant écoute, et puis on leur demande quelque chose et on espère bien sûr qu'ils vont faire ce qui a été demandé. C'est évidemment un idéal, mais en réalité on sait que ça ne se passe pas comme ça. Donc des fois, nous on s'est mis dans le rouge parce qu'on comptait tellement sur ce pseudo-idéal du sitcom parfait où les parents demandent et l'enfant obéit et tout se passe comme dans Beverly Hills. Donc il faut se dire que ça ne va pas se passer comme ça à l'avance. Et puis, changer notre vision et d'anticiper les demandes comme des occasions d'apprendre, dans le sens où on est là pour les guider et leur apprendre. Donc forcément, ils ne vont pas faire ce qu'on leur demande ou forcément, ils vont essayer autre chose. Et prendre ça plutôt comme des super occasions de pouvoir enseigner quelque chose et puis qu'ils en retirent quelque chose pour eux-mêmes. Parce qu'on sait qu'ils vont se confronter à la limite, ça va être leur manière d'apprendre. Et puis nous, si on n'est pas prêt à ça, on va peut-être vite tomber dans la colère ou dans je sais quelle autre émotion qu'on gérera vraiment. Pas vraiment, je veux dire. Donc, créativité, c'est un bon mot d'ordre pour les parents. On s'est surpris, Johan et moi, à être hyper inventifs, puis finalement à bien rire avec ça aussi, parce que ça devenait aussi quelque chose d'attrayant pour nous, de chercher des idées, de les mettre en place, de se planter aussi, puis de réessayer. Et puis voilà, ça devient aussi quelque chose où on y trouve une satisfaction, puis on voit des super résultats à long terme.
Je vous propose de passer un moment à la réflexion. Dans le manuel de la page 30, à la page 30 là, du petit manuel que vous avez.
Ils ne l'ont pas pris, eux.
On vous propose de penser à un moment où vous avez demandé quelque chose à votre enfant, donc monter dans une voiture, ranger des jouets, venir à table ou que sais-je. Et puis de sentir à ce moment-là quelle était votre attente à ce moment-là. Et puis quelle réponse votre enfant vous a donnée. Vous pouvez partager avec votre voisin, votre conjoint.
Par exemple, cette semaine, Nina, notre deuxième fille, elle a expérimenté le fait de ne pas venir à temps à table. Et puis, Joanne l'avait déjà appelé, avait déjà dit genre trois fois que le souper commençait. Et puis qu'elle amenait les choses sur la table. Il y avait une première étape où voilà, on va souper. Voilà. Et puis Eline s'est pointée, donc la grande, elle est venue à table. Et puis Nina, elle a continué à jouer avec son ballon tout près de la table. Elle savait très bien ce qui se passait. Et puis Joanne, elle a dit, écoute Nina, tu veux manger ou pas? Puis là, elle n'a pas répondu. Elle a en quelque sorte fait son choix. Et Joanne lui a dit, je vais enlever ton assiette. Et ce prochain repas, ce sera demain matin. Alors Nina, elle a éprouvé physiquement aussi le fait de ne pas avoir son repas du soir. Et puis elle avait un peu la dalle. Elle n'en est pas morte, hein, mais ça marque aussi les choses. Et puis ça lui permet d'éprouver complètement et pas que nous on rattrape le truc avec un filet de sûreté en essayant de porter de nouveau la responsabilité que l'enfant il faut absolument qu'il mange. Non, elle est capable de supporter ça et puis elle va apprendre. Elle a 3 ans.
Elle a super bien dormi. Ouais. Et puis elle a mangé vraiment avec beaucoup d'appétit le lendemain matin.
Mais c'est vrai que c'est un truc qu'on fait déjà depuis un certain temps. Ouais. Elles sont aussi habituées à ce régime, si je peux dire. Elles mangent une fois par semaine. Hein. Ça, c'est, chez nous, c'est comme ça. C'est cru, c'est de la viande crue. Une écuelle d'eau, un peu de paille, et puis c'est réglé. Voilà. Donc, y a aussi un autre exemple, c'est que les pantoufles à la maison, on s'est beaucoup battu pour qu'elles mettent les pantoufles parce qu'on a un sol qui est assez froid et tout ça, puis elles jouent toujours sans et tout ça. Puis je me suis entendu leur dire, mais je vais vous les scotcher aux pieds, ces pantoufles, puis un peu comme ça en l'air. Puis je me suis dit, mais comment être conséquent avec mes mots, là? Alors j'ai été chercher du gaffer. J'ai dit, ok, on scotche les pantoufles. Puis je leur ai entouré autour de la cheville. Alors elles étaient bien énervées, elles étaient en colère. Elles me l'ont dit, je dis oui. Mais je vous avais dit, et puis maintenant, sachez que la prochaine fois que je vous demande de mettre vos pantoufles, ça serait bien d'obéir, quoi. Et puis, toutes les fois d'après, ça a été instantané. Il y a eu vraiment une réaction de... Elle courait avant nous pour que nous, on n'ait pas le temps d'aller chercher le rouleau de scotch. En fait, il y a vraiment un... Enfin, voilà, c'était... Et puis maintenant, ça ne pose plus aucun problème. C'est vraiment un stade où il y avait besoin de ça, puis on est passé à autre chose. Et puis, elles ont pu prendre un peu leurs responsabilités à ce niveau. Lorsque les enfants ils font ce qu'on leur demande, ils se sentent en sécurité. La Bible elle dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier des commandements avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » En d'autres termes, c'est nous les parents qui protégeons, qui les dirigeons, qui les façonnons. Alors c'est une sacrée responsabilité, mais c'est aussi quelque chose de magnifique que Dieu nous confie. Ça les aidera aussi dans leur propre relation avec Dieu, s'ils veulent marcher dans ses voies et puis le suivre. Et aussi pour leur future vie d'individus, de personnes, pour le travail, pour la relation aux autres, à l'entourage.
Je pense qu'on a tous un nombre d'exemples assez incroyables où on s'est retrouvés à réagir trop fort par rapport à l'âge de nos enfants, par rapport à la situation. Et moi, régulièrement, je sais que je me dis, ouf, là j'étais complètement, c'était beaucoup trop fort, j'étais en colère, mais elle ne pouvait pas assumer ça. Et où je leur demande pardon pour ça. Et puis je pense que c'est aussi hyper riche en famille de pouvoir vivre ça. Et de donner l'exemple aussi de se demander pardon et de pouvoir aller de l'avant et de montrer aussi qu'en tant que parent, on se trompe et puis on se relève et puis on continue. Et voilà, il y aura plein de situations où nos enfants ils vont ignorer ce qu'on leur dit, ils vont s'y opposer. Et comment faire dans ces cas-là pour arriver à justement ce mandat que Dieu nous a confié de « enfants, obéissez à vos parents », de pouvoir leur inculquer ça dans leur cœur. Donc la situation idéale, on a vu que c'était, si on demande à nos enfants de ranger leur chambre, on s'attend tous à ce que nos enfants arrivent et puis disent « oui maman », et puis ils vont ranger leur chambre. Hein, ça, ce serait juste parfait à chaque fois. Mais souvent, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Et la réponse serait plutôt « ah, mais après, je suis en train de faire un jeu génial, là, ou pourquoi je dois toujours ranger ma chambre ?» Et voilà, ça nous amène souvent à nos propres limites, en fait. À comment est-ce qu'on peut rester aussi serein et tranquille en étant confronté à une opposition de la part de l'enfant.
Donc, dans ces situations, on a réalisé l'importance de ne pas mettre soi-même dans le rouge. Papa, maman, si on commence à être dépassé, c'est là que ça devient un peu le chaos et c'est difficile de déjà retrouver son propre calme et puis cadrer bien les choses. Donc là, on a un dessin de Gary Larson, c'est un dessinateur de BD que j'aime beaucoup, qui est très parlant. Voilà. Où il faut adapter aussi le cadre à ce qui se passe. Il faut souvent être inventif, puis on ne peut pas toujours mettre le même. Il y a des situations qui nécessitent qu'on en mette un, d'autres, quelque chose de plus large, des fois plus serré. Et n'oublions pas qu'établir des limites, établir un cadre, ça valorise ce qu'il y a dedans. Donc ça valorise l'enfant, ça valorise les parents aussi. On peut aussi être passif et puis éviter les confrontations. Du genre tes besoins sont importants mais les miens non, c'est-à-dire qu'on respecte pas nos propres besoins de parents, donc nos limites elles passent outre, mais celles de l'enfant elles sont importantes. Et l'enfant, ce qui est transmis aux enfants, c'est je ne respecte pas mes besoins donc de parents. Alors la conséquence, c'est que les enfants ne respectent pas les besoins des parents, tout simplement. Enfin, c'est aussi une réponse logique. Il y a quelque chose qui peut être aussi plus agressif et plus contraignant. C'est mes besoins sont prioritaires aux tiens, donc les besoins du parent sont plus importants et les tiens pas. Le message qu'on transmet aux enfants, c'est que je ne respecte pas tes besoins. La conséquence, c'est qu'il y aura une distance dans la relation qui peut s'installer et puis l'enfant va aussi devoir se protéger autrement. Donc ni l'un ni l'autre est idéal, en fait. Le tout, c'est de trouver toujours l'équilibre, la tension entre les deux côtés et puis de satisfaire les besoins de tous. Donc de tendre à ça, je dis bien tendre parce qu'on est... On n'est jamais dans quelque chose de parfait et puis lisse, quoi. On est toujours en train de réajuster, de raboter un côté. Voilà. Un truc qu'on a mis en place, qu'on utilise toujours beaucoup, c'est agréable ou dans ta chambre. Dès que l'enfant a une attitude qui ne joue plus, quand on est ensemble dans un lieu, au repas ou n'importe, même dehors quand on est avec des amis ou n'importe, Ok, agréable dans ta chambre, il a son choix, il sait que s'il veut être parmi nous, puis être dans le noyau de la famille, il faut qu'il soit agréable, il faut qu'il respecte un peu un code d'attitude, et puis s'il n'arrive pas à faire ça, eh ben, il a un espace pour lui aussi, pour se retrouver et essayer de retrouver son calme. C'est quelque chose qui marche assez bien, qui est efficace. Donc on sait aussi que malgré tous ces super... toutes ces super stratégies qu'on peut mettre en place, l'enfant, il arrivera toujours, parce que aussi nos enfants, il arrivera à toucher notre corde sensible, qu'il arrivera à toucher le bouton Fireburn, le truc qui va faire tout exploser. Donc, un truc qui est cool, dont Danny Silk parle dans son livre, c'est de prendre le recul en accueillant les propos de l'enfant avec des quittances du genre neutre, mais courte, du genre « je sais, c'est possible, sans doute ». Je sais pas, ou bien essayer. Enfin, voilà, c'est aussi de se protéger soi-même, parce qu'on sait très bien ce que ça peut faire comme explosion. Donc, c'est aussi protéger l'enfant à ce moment-là, de donner un peu ce genre de réponse. C'est aussi une manière de pouvoir dire à l'enfant qu'on continue à l'aimer inconditionnellement, malgré ce qui se passe, et puis que, pendant que lui, il essaye de lutter avec son propre contrat, finalement, avec sa propre attitude, comment il doit être respectueux.
Alors là, il y a juste quelques phrases comme ça qui sont des choses qu'on pratique souvent quand on veut se faciliter la vie à court terme. Par exemple, nous menaçons et nous répétons, nous utilisons la corruption, nous négocions au milieu du conflit, on abuse de la compassion, on offre trop de choix. Et tout ça, c'est des choses qui peuvent marcher sur du court terme, mais à long terme, en général, ça... Une fois qu'ils deviennent adolescents, c'est le genre de choses, je pense, qui marchent moyennement bien. Et puis là, on va continuer en vous partageant quelques astuces qu'ils proposent dans leur livre. Un des premiers, c'est « Dites ce que vous pensez et pensez ce que vous dites ». Dans l'idée de ne pas demander quelque chose à nos enfants si on ne s'attend pas vraiment à ce qu'ils fassent ce qu'on leur demande, d'être juste cohérent et puis... cohérent dans ce qu'on dit. Un deuxième élément, c'est veiller à la manière dont vous donnez votre instruction. Si je propose à mon enfant « Est-ce que tu ne voudrais pas aller au lit maintenant ?» Je pense qu'il y a assez peu de chances qu'il réponde « Ah ouais !» donc voilà, de pouvoir aussi, quand la situation se présente, être plus ou moins ferme. Et puis peut-être que dans certaines situations, c'est plus approprié de plutôt dire « Maintenant, c'est l'heure d'aller au lit, on y va, allez hop !» Et puis voilà. Chercher un contact visuel, je pense que c'est assez important de juste notifier « Ok, je te parle à toi » et puis de pouvoir soit se mettre aussi à genoux, se mettre à leur hauteur. Je pense que ça facilite aussi la communication. Et puis attendre une réponse aussi. Moi, je sais que souvent, quand je demande à Eline ou Nina quelque chose, je m'attends à ce qu'elle, j'attends une réponse, j'attends à ce qu'elle me dise oui, j'ai entendu, oui, et je vais souvent les chercher jusqu'à ce qu'elle me dise oui, c'est bon, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Un des trucs qu'ils disent, c'est aussi de les appeler par leur prénom, plutôt que de dire les filles, on va à table, ou de les nommer. Eline, Nina, on va aller à table. Ne soyez pas trop prompt à vous répéter. Nous, on réalise que nos enfants, enfin en tout cas au dernier contrôle de pédiatre, leur oui, elle marchait super bien. Et que quand je dis les choses, à moins qu'elles n'aient pas entendu ou qu'il y ait trop de distance, ou que voilà, mais qu'en général, elles comprennent super bien ce que je leur demande. Et que finalement, de rentrer dans un truc où on répète trop souvent les choses, eh ben, ça devient aussi une habitude. Après, ils s'attendent aussi à ce qu'on le dise 4 fois avant d'obéir. Par exemple, Eline, mets tes souliers. Et t'as compris, je t'ai demandé de mettre tes souliers. Et Eline, si tu mets pas tes souliers, je vais me fâcher. 3, 4. Eline, tu veux vraiment que je me fâche? 5. Et Eline, si t'es une bonne fille et que tu mets tes souliers, je te donnerai un peu de chocolat. Bon, très bien, ben, pas de chocolat pour toi. 7. Et Eline, si tu mets pas tes souliers, tu vas voir. 8. Eline, tu vas mettre tes souliers. Bon, cette fois, t'as été avertie, ça va mal se passer. Et à ce moment-là, Eline, elle court, elle va vite mettre ses souliers. Puis à la fin, vous lui dites, bravo Eline, t'as mis tes souliers. Tout ça pour montrer que nos enfants, ils aiment prendre des risques. Et puis, que doucement, gentiment, ils franchissent un petit peu la limite, ils mettent le pied dehors, puis ils attendent de voir comment on réagit. Et puis souvent, ils sont assez contents d'avoir désobéi, puis de pas avoir été pris, ou d'espérer pas avoir été pris à temps. Mais dans ce cas-là, on réalise que l'obéissance ou la désobéissance, ça vient quelque chose d'assez subjectif. Finalement, là, ce qui a été mis en priorité, c'était plutôt l'humeur du parent ou son degré de patience à ce moment-là, ou la fatigue, ou ce genre de choses. Et ouais, moi, je vous encourage à essayer, parce que je suis sûre que vos enfants, ils ont une ouïe qui va aussi bien.
Suite des astuces, donner une information au préalable d'une autre action, c'est-à-dire quand l'enfant est en plein dans un jeu ou en plein dans quelque chose, dans un dessin ou n'importe, de déjà donner, d'anticiper en donnant une information préalable de type temporel, si on dit bon bah voilà, s'il peut comprendre les minutes ou les aiguilles sur une horloge, comment ça marche, d'utiliser ça pour dire bah voilà, quand l'aiguille sera là, bah ça sera l'heure d'aller se mettre en pyjama, ou plus que 2 minutes si l'enfant comprend bien les minutages et tout ça. Ou aussi, nous, on a réalisé, notre grande fille, elle est très sensible au fait de finir ce qu'elle est en train de faire. Du coup, elle a besoin de finir ça. Et nous, on a aussi dû observer ça, puis respecter son besoin. Ouais. Le minutage, pour elle, ça ne lui parlait pas. Donc, OK, tu peux finir cette partie-là, on délimite quelque chose, et après, on passe à autre chose. Du coup, elle a vraiment un cadre posé qui lui convient, et puis dans lequel elle peut vraiment s'inscrire. Offrir une porte de sortie, c'est aussi avoir toujours une écoute pour l'enfant si tout d'un coup quelque chose d'autre s'est passé que nous on n'a pas calculé et puis que l'enfant n'a pas pu spécialement obéir. C'est aussi rester quand même dans l'écoute et pas que dans la procédure. Prenez en compte le contexte. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que mon enfant fait en réponse à mon instruction ici et maintenant? Est-ce qu'il est en train de désobéir dans un contexte ou dans un autre? Ça dépend. Enfin voilà, si par exemple, on lui a demandé de ranger sa chambre et puis qu'un quart d'heure après, on le voit dans la chambre de sa sœur en train de faire autre chose, on pourrait très bien s'énerver en disant qu'il n'a pas obéi. Écouter l'enfant, ça veut pouvoir dire aussi peut-être qu'il a été aidé sa sœur à faire quelque chose. Donc il y a une valeur aussi qu'il a appliquée, qui est bonne, qui n'est pas non plus à casser. 9e astuce, c'est être cohérent. Enseigner à nos enfants à faire ce que nous leur demandons demande de notre part des instructions claires et de la constance. C'est comme je disais avant, de l'organisation aussi en couple, et puis tenir aussi bon là-dedans. Parce que sans indication claire, les enfants, ils sont un peu perdus. Donc ils ne sauront pas quoi faire. Donc c'est important qu'on ne réagisse pas en fonction de nos sentiments, de notre humeur ou de notre état de fatigue. Nos enfants, ils doivent être dans quelque chose d'assez systématique et méthodique. La dernière astuce qu'il nous donne dans ce livre, c'est rappelez-vous de donner l'exemple, qui est toujours une grande phrase hyper, hyper efficace, mais pas aussi facile à expliquer, à appliquer. Voilà, si nous on respecte l'autorité, il y a plus de chances qu'ils la respectent aussi. Enfin, le meilleur moyen de donner un exemple, c'est d'en être un. On connaît bien cette phrase.
Une des deuxièmes choses qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'était l'encouragement et les félicitations. Donc je pense qu'un mot d'ordre, ça pourrait être sans modération. Je pense que c'est vraiment un super outil pour les faire aller de l'avant, pour les encourager à faire des bons choix. Un exemple, ça pourrait être quand on va chez des amis dans la voiture, de par exemple se rappeler quelles sont les règles d'or de la famille quand on est chez des amis. Ça pourrait être en questionnant les enfants. Qu'est-ce qu'on se fixe comme règle quand on est chez ces gens? De, par exemple, dire bonjour en entrant, d'enlever ses souliers, de dire merci, s'il te plaît. Enfin, voilà, autant de choses qui font partie de chacune, enfin, qui est importante à chacune des familles. Ce n'est pas forcément la même chose chez tout le monde. Et une fois qu'on rentre, on peut constater aussi si ça a été appliqué ou pas, si on peut féliciter les enfants, on leur dirait génial, ça a été cool, enfin, les règles qu'on s'est fixées, vous les avez respectées, c'était chouette, voilà. Et on peut rentrer dans cet encouragement et ces félicitations. Et si c'est quelque chose qu'on ne fait pas, par exemple, et qu'on arrive chez les amis comme ça, c'est après difficile de pouvoir rentrer dans cette démarche.
On va prendre un petit moment maintenant pour vous laisser du temps, ou voilà, juste 2-3 minutes, pour que vous vous penchiez sur vos propres règles d'or avec les enfants. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous établissez? Comment est-ce que vous aimeriez que vos enfants se souviennent des choses à faire quand ils vont chez des gens, sans vous par exemple? Et puis juste vous pencher sur cette question-là. Normalement, c'est dans votre fascicule aussi.
Qu'on pourrait leur donner. Les enfants, ils arrivent quand même à ce stade fatidique où ils désobéissent. Pour nous, la correction, c'est tenir la limite qu'on s'est fixée, c'est rester cohérent. Et puis, c'est aussi laisser l'enfant se cogner contre cette limite et puis assumer sa responsabilité selon son âge et la situation. Voilà, on croit vraiment que ça commence dès la naissance, qu'il y a aussi tout un travail de leur faire confiance et de lâcher prise qui permet de pouvoir vivre ça.
Moi, j'ai par exemple beaucoup de peine à vivre les pleurs de mes deux premières filles. Ça a été à chaque fois un défi énorme pour moi d'entendre ce petit bébé qui hurle et qui s'arrête pas d'hurler, puis qui a l'air de parler bien et tout ça. Puis moi, ça me faisait vraiment un tsunami d'émotions en moi, et puis il fallait que ça s'arrête. Ça me plongeait soit dans l'envie d'aller vite vers l'enfant, soit l'envie de cogner contre quelque chose en bois. Enfin, je suis passé par des stades qui étaient pas cool. Et puis, jusqu'au moment où Joanne a pu m'aider là-dedans, dans le sens où elle voulait tenir ce cadre de... Ce qu'on a le plus souvent appliqué, c'était on laisse pleurer 20 minutes, puis on retourne après 20 minutes en disant « Ok, tout va bien, t'es dans un cadre sécurisé, on est là, tout va bien. » Et puis, on repartait, puis on le laissait se rassurer tout seul. Dans le sens, faire confiance à l'enfant, c'était aussi ça. C'était que moi, je pouvais lâcher prise sur cette part des pleurs qui me donnait un signal d'alarme tellement fort, mais qu'en fait je pouvais baisser le degré en disant c'est bon, il va bien, un enfant c'est normal, ça pleure, on me l'a déjà dit en théorie, mais j'avais de la peine à le vivre en vrai. Et puis du coup de tenir ça, puis de voir qu'en fait l'enfant apprend très bien et on peut lui faire confiance. Il apprend aussi à trouver son pouce, à se retourner, enfin toutes sortes de choses. Moi, ça a été un défi, en tout cas quand c'était le début pour moi d'être papa, c'était éprouvant.
Et puis même plus tard après aussi, quand Nina, elle a raté son souper, au fond de moi, à un moment donné, j'avais envie de lâcher et puis de me dire, c'est pas cool, moi j'aime
une cacahuète. Hop.
Moi j'aime bien manger aussi, et puis ça m'a fait mal au cœur. Mais finalement, au fond de moi, je me disais, mais si je lâche maintenant, tout ce que j'ai fait jusque-là, ça c'est du vent. Mais parfois, on a l'impression que ça nous facilite la vie si on lâche et si on va directement à ce que l'enfant demande. Je pense que si on a en tête un verset de la Bible qui dit que votre douceur soit connue de tous, il y a assez peu de chances d'aller trop loin ou de. Enfin voilà, si on garde vraiment à l'esprit de corriger en étant dans l'amour. Je pense qu'on atteint le but.
Où est le cœur de nos enfants? Comment est-ce qu'ils ont fait leur acte? Est-ce qu'ils ont désobéi intentionnellement, par étourderie, par innocence? Donc aussi important de jauger ça et puis de t'en tenir compte. Et puis ça permettra d'évaluer quelle correction, quelles conséquences faire assumer à l'enfant. C'est de l'adaptabilité, en somme. Il y a les Melwish qui parlent d'une expérience qu'ils ont eue qui est toute simple. Autour de leur maison, ils ont rénové un peu la bordure de leur maison avec un beau gravier tout neuf, magnifique, qui leur avait coûté cher, mais qui avait vraiment revalorisé tout leur jardin. Donc il y avait vraiment la partie gravier et puis l'herbe après qui était bien tendue. Et puis quand ils ont dit à leurs enfants d'aller jouer dehors, ils ont juste oublié de leur dire de ne pas prendre les pelles et puis jeter tout le gravier dans l'herbe. Et puis, parce que pour eux, c'était la catastrophe. Mais les enfants s'amusaient à fond, ils étaient heureux, quoi. Ils se sont éclatés. Donc là aussi, ça les a mis aussi devant le fait de dire « Ah ouais, faut informer et puis on ne peut pas les sanctionner pour ça, c'est une forme d'innocence. » Il y a aussi l'insouciance due à l'immaturité, on peut appeler ça l'étourderie enfantine. C'est quand nos enfants, ils auraient dû... Ah oui, voilà, un dessin de... Non ? Non, non ? Ah d'accord, je me suis trompé. Alors, attendez, où est-ce que j'en étais ? Ils auraient dû savoir, mais qu'ils n'ont pas vraiment réfléchi sur le moment, aux conséquences. Et puis, ils sont encore dans une sorte d'entre-deux, entre voilà, l'innocence et l'intentionnel, où il y a un peu un mélange. Donc, il faut aussi cette sensibilité, cette sagesse, comme parent, d'évaluer ces comportements-là. Des fois, il suffit juste de leur indiquer ce qui s'est passé et puis de reverbaliser tout ça pour qu'eux, ils prennent conscience et puis que ça ne se reproduise pas. Qu'en est-il de la désobéissance délibérée quand c'est vraiment intentionnel et que c'est fait en pleine conscience? Des fois, on peut savoir que les enfants peuvent être assez crus, ils vont oser venir défier la limite de manière forte. Donc, et ils sont très, très conscients que c'est une désobéissance.
Il y a encore peut-être quelques questions qu'on peut se rappeler avant de se dire est-ce que vraiment c'était intentionnel ou pas. Par exemple, si on est dans une salle d'attente pour un rendez-vous médical et que ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure et puis qu'on est avec nos enfants, à un moment donné pour eux c'est trop et forcément ce sera difficile de les tenir après ce temps-là. Et les circonstances font que c'est difficile de leur demander d'être encore adéquat après trois quarts d'heure d'attente.
Prendre en compte le contexte.
Des choses toutes simples comme des besoins physiologiques, est-ce qu'il est fatigué, est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il a besoin d'aller aux toilettes. Enfin, c'est tout un tas de choses qui des fois peuvent juste désamorcer la situation avant que ça aille plus loin.
Tout ça, ça nous aide à évaluer la situation. On aimerait leur dire de faire attention quand on les corrige, mais voilà. Si la punition est plus lourde que le crime, c'est décourageant pour nos enfants. Donc on sait bien qu'on ne fera absolument pas tout juste, mais essayons d'appliquer les choses de manière équitable. On va peut-être zapper la petite pause qu'on vous proposait, parce qu'on a encore quelques points à aborder. Il n'y aura pas de café, il n'y aura rien, il n'y aura pas de dîner non plus. Non, non, c'est juste le petit moment de... Non. Voilà, c'est agréable dans ta chambre, hein, attention. Donc, tu enchaînes.
Ouais. Donc voilà, ça c'était une petite illustration pour montrer comment aussi les enfants peuvent vivre les conséquences logiques de leurs actes. Après, quand nos enfants désobéissent délibérément, il y a un peu plusieurs niveaux. On peut, si c'est des petites choses, peut-être juste leur rappeler les règles, hein, comme tu disais avant. Et puis il y a des fois des choses qui nécessitent plus qu'un rappel, quand c'est quelque chose qui est devenu une habitude, quand ça revient tous les jours, trois fois par jour, dix fois par jour. Là, je pense qu'il est juste aussi d'être ferme puis de poser des choses qui soient claires. Ça peut aussi être plus conséquent. Ça peut aussi être de leur laisser du temps pour réfléchir. Nous, on a, tu vas en parler un peu après, mais le fait d'aller réfléchir sur un magnifique escalier qu'on a chez nous, c'est assez magique. Et ça aide à désamorcer pas mal de problématiques. On a toujours un moment, en fait, après, une fois qu'elle a réfléchi, où on va rejoindre l'enfant, où on lui propose de cheminer avec lui, puis de comprendre qu'est-ce qui s'est pas passé, puis qu'est-ce qu'il peut faire pour réparer son tort ou ce qui n'a pas été.
Voilà, il y a les différentes techniques aussi qui sont proposées pour traiter ce genre de situation, c'est les... Et se faire mettre à l'écart des autres, ça pour l'enfant, ça a quand même une très grande valeur d'être avec des amis, même avec des adultes ou d'autres enfants, c'est quelque chose de fort pour eux, donc de les retirer de ce contexte-là, ça va leur coûter cher, donc c'est aussi quelque chose qui peut être à la hauteur de leur délit, si je peux dire. Il y a aussi le fait d'enlever un privilège, qui est tout d'un coup une suppression de quelque chose, on enlève quelque chose dont il avait l'habitude et dont il profitait. Et il y a quelque chose qui sont les conséquences logiques aussi, qu'est ce que nous on applique beaucoup, c'est vraiment c'est le naturel de la sanction qui s'applique tout seul de par leur choix. Eline, dernièrement, c'est lundi qu'elle a expérimenté ça. Chez nous, dans le jardin, on a une barrière qui est pas très solide. Elle est derrière une sorte de bande d'herbe assez haute. Puis c'est une vieille barrière qui tient pas très bien. Puis on leur a dit de pas s'appuyer contre parce que juste derrière, il y a une grande route. Et puis Jeanne l'avait averti déjà plusieurs fois en disant cette barrière, on est d'accord, tu t'appuies pas, tu restes là, parce qu'elle voulait voir les vaches passer au milieu du village. Alors voilà, et elle n'a pas respecté ça, elle a continué à jouer, à appuyer contre, à s'appuyer, machin. Et Jeanne avait averti que si elle n'arrivait pas à tenir ça, elle remonterait dans l'appartement, puis donc elle perdrait ce moment de jeu avec sa petite sœur et son voisin. Et c'est ce qui est arrivé, du coup elle en a pleuré, et puis moi je suis revenu du boulot au moment où elle était en train d'assumer son truc en haut, donc c'était intéressant de reprendre la chose après avec elle en disant, on a reposé les choses avec elle, on a fait le bilan, et puis... Elle a pu mettre aussi des mots, elle, dessus. Mais ça prend aussi du temps. Hein. Toujours, on revient à cette notion de temps. On doit prendre un temps pour ça. Et puis se pencher dessus. Après, toujours penser que les choses doivent s'adapter et puis se moduler. On peut pas rester figé sur une manière de faire. Il faut être inventif et puis se re-questionner le plus souvent possible. Parce que nos enfants évoluent vite, et puis nous, on a l'habitude peut-être de plus de routine, de choses. Ah ouais, on est confiant, on connaît le cadre, on sait comment aller maintenant, la procédure est claire, on l'applique. Et l'enfant, il est déjà plus loin, et puis il faut renormer les choses.
Je pense que c'est important aussi de se rappeler que n'importe quelle sanction, du moment qu'elle est donnée de façon arbitraire, elle peut être abusive. Et que moi, il y a plein de fois où je me suis fâchée, où j'étais juste dans mes limites et pas du tout adéquate, et où je pense que j'ai fait du mal à mes enfants. Donc voilà, de toujours rester aussi prudent, de prendre soin de leur cœur dans ces moments.
Il ne faut pas oublier que toute correction qu'on peut mettre en place, toutes ces stratégies, elles ne vont pas avoir beaucoup d'effet si tout le lien qu'on donne avec l'enfant, il n'est pas entretenu et puis il n'est pas consolidé. Donc on peut mettre toutes les corrections en place qu'on veut, être hyper stratégique, mais si le lien il n'est pas bien soigné et puis que voilà, l'image du cerf-volant, l'enfant il quitte gentiment, il commence à choper d'autres courants d'air que les nôtres, hein, et du coup il va aller par ses propres ailes à un moment donné, mais notre lien avec lui il est toujours là, et puis à nous de faire en sorte que ce lien il reste bon, quoi, il reste fort.
La dernière chose qu'on voulait aborder, c'était la réparation, le fait de réparer les pots cassés quand il y a eu une bêtise ou qu'il y a eu blessure. Je pense que c'est vraiment l'aboutissement du processus. Ça permet à l'enfant de pouvoir peut-être vivre les conséquences logiques de ses actes, en réparant ce qu'il a cassé, par exemple. Et ça permet de remettre aussi la responsabilité sur la bonne personne. Ça peut être des réparations matérielles, le nombre de fois où elle renverse un verre d'eau. Et puis finalement, des fois, le plus simple, c'est que moi, je me lève, que j'aille chercher une pâte, que je nettoie, puis je le fais énerver, puis machin. Et puis finalement, quand c'est Nina qui doit aller chercher la pâte, aller nettoyer, qui doit vraiment assumer ça jusqu'au bout, ça a beaucoup plus d'impact dans sa vie. Ça peut être des réparations relationnelles. Lorsque je blesse quelqu'un, souvent Eline et Nina elles sont beaucoup en compétition ces temps, et puis elles se blessent souvent, et du coup la relation elle est abîmée, et souvent je leur demande mais qu'est-ce que tu peux faire pour restaurer cette relation, pour la réparer, et puis elles ont souvent plein d'idées assez intéressantes, mais voilà, en général ça les amène à recréer un lien et donc à se demander pardon et puis continuer. Ouais, toujours garder à l'esprit qu'en tant que parent, on est imparfait, qu'on fait des erreurs. Et puis qu'on est vraiment un exemple dans le fait de demander pardon. Je pense qu'un des exemples les plus parlants qu'on a, c'est l'exemple de Jésus, qui nous a offert son pardon au travers de tout ce qu'il a accompli sur la croix. Et toute cette notion d'aller vers lui pour aussi recevoir le pardon, lui demander pardon, pour tout ce parallèle entre notre relation avec Dieu et puis le parallèle entre notre relation en tant que parents à nos enfants. Je trouve ça hyper intéressant.
Là, il y a juste un psaume qui dit « Je t'instruirai et t'enseignerai le chemin où tu dois marcher, je te conseillerai ayant mon œil sur toi. Ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet, qui n'ont pas d'intelligence, dont l'ornement est la bride et le mort, et le bride et la mort pour les réfréner quand ils ne veulent pas s'approcher de toi. Le cheval et le mulet, ils ont besoin d'un contrôle extérieur, mais Dieu, il ne veut pas nous contrôler de l'extérieur, il veut qu'on soit conduit par son regard. Les yeux sont comme une fenêtre sur l'âme. Donc ça, c'est Danny Silk qui dit ça dans son livre. Je trouve intéressant. Il nous conduit en faisant connaître la manière dont nos choix affectent son cœur. Nos péchés font souffrir son cœur. Il nous invite à regarder dans ses yeux et à le voir. Il nous confie son cœur et a confiance que notre préoccupation pour son cœur nous conduira. Nous pouvons contrôler des petits enfants, mais lorsqu'ils grandissent, notre influence va être déterminée par la valeur qu'ils accordent à la relation avec nous. Donc voilà, la valeur du contrôle, elle se perd de toute manière. Par contre, le lien entretenu, et puis cette valeur-là, elle dure, quoi. Voilà, on a terminé pour la théorie. Je crois que c'est le temps du café que tout le monde attend. J'espère que c'est allé pour vous. Merci à vous. À tout de suite.